Inutile de préciser que ce livre ne présente pas la doctrine secrète dans sa totalité, mais une sélection de fragments de ses enseignements fondamentaux, avec une attention particulière portée à certains faits qui ont été saisis par divers auteurs et déformés au-delà de toute rance avec la vérité. Mais il est peut-être souhaitable d'indiquer sans équivoque que les enseignements contenus dans ces volumes, quels menteurs et incomplets qu'ils soient, n'appartiennent ni à la religion hindoue, ni à la zoroastrienne, chaldéenne ou égyptienne, ni à l'islam, au judaïsme ou au christianisme exclusivement. La doctrine secrète est l'essence de tout ceci. Jaillit de celle-ci à leur origine, les différents mouvements religieux sont amenés aujourd'hui à se refondre dans leur élément d'origine, à partir duquel tous les mystères sont nés, se sont développés, puis sont devenus matérialisés. Le but de cet ouvrage peut être défini ainsi. Près que la nature n'est pas une conjonction fortuite d'atomes et de donner à l'homme sa place légitime dans l'organisation de l'univers, de sauver de la dégradation les vérités archaïques qui forment la base de toutes les religions, de révéler dans une certaine mesure l'unité fondamentale dont elles sont toutes issues, de montrer que le côté occulte de la nature n'a jamais été abordé par la science de la civilisation moderne.
Ami Hypatia et l'école d'Alexandrie, c'est un sujet très important au plan historique. Et vous savez qu'avec la théosophie, ce que l'on cherche, c'est la vérité historique, bien sûr, entre autres. Et malheureusement, pour Hypatia, il ne reste rien, parce que les civilisations sont ainsi faites que la nouvelle vient chasser, écraser l'ancienne. Dans les ordinateurs, on écrase, ça ne disparaît pas tout à fait, mais là, vraiment, tout ce qui concernait Hypatia a été détruit complètement par les églises, par l'islam, par... Il reste quelques rares témoignages, donc, romains qui ont été retrouvés, mais... Alors, d'abord, situons le cadre. Alexandrie, ça vient d'Alexandre, c'est Alexandre le Grand qui a fondé cette ville d'Alexandrie au 4e siècle avant Jésus-Christ, en 331. Alexandre le Grand, c'était même pas un grec, c'était un macédonien, c'est-à-dire la Macédoine actuelle, avec la ville de Péla, qui est bien au nord d'Athènes et de Sparte. Et la Macédoine était, avait des empereurs vigoureux, mais comme tous les empereurs de cette époque, ils s'assassinaient les uns les autres. Bref, de Philippe II de Macédoine, Alexandre le fils, veut venger son pays et puis combattre les Perses qui ont toujours été des envahisseurs terribles avec Cyrus, Darius et d'autres. Les Perses avaient occupé le bassin méditerranéen. Et Alexandre, à la mort de son père, après l'assassinat de son père, va d'abord soumettre Athènes et Sparte qui sont en Grèce. Donc il va apparaître comme le chef grec, bien qu'il soit macédonien, mais le chef grec, et il va entraîner avec les habitants de la Grèce tout entière, Sparte et Athènes, il va entraîner une armée pour aller combattre les Perses. Les Perses, c'est des gens énormes. Bon, donc ça c'est en 330. Et il va gagner contre Darius, et puis ensuite il va gagner même contre le roi Poros d'Inde, en Inde. Alexandre le Grand est allé jusqu'à l'Indus, il a traversé la passe de Khyber pour rejoindre le Pakistan et l'Afghanistan. Alexandre le Grand, avec les moyens de l'époque, il a été combattre les éléphants de guerre de Poros, il les a vaincus. Donc des batailles affreusement sanglantes, et Alexandre était comme tous ses chefs de l'époque, très, très cruel, bien sûr. Parce que les prisonniers étaient soit au fil de l'épée, soit envoyés aux galères. Et les galères, à l'époque, c'était très, très, très épouvantable. Bon, donc, au retour, Alexandre a 33 ans, au retour, il séjourne à Babylone et il meurt à Babylone à 33 ans, 34 ans. On pense que c'est un empoisonnement, d'autres une indigestion. Bref, à 34 ans, il meurt. Bien sûr, ses généraux se battent et c'est Ptolémée, un général qui l'emporte, ses généraux grecs, bien sûr, on est en Babylonie, mais les Grecs étaient là, avec l'armée d'Alexandre, et donc c'est Ptolémée, et on va avoir une succession de rois ou empereurs, toute une dynastie de Ptolémée, de Ptolémée Ier, en 306-325 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 40 avant Jésus-Christ, toujours, on est avant l'ère chrétienne. Juste donc de 326 à 26, avant Jésus-Christ, eh bien, il va y avoir 16 Ptolémées de père en fils, jusqu'à Cléopâtre. Il y aura plusieurs Cléopâtres, mais voilà. Et puis, le dernier Ptolémée, Ptolémée XVI, qui est le fils de César en personne et de Cléopâtre, est assassiné par... donc finalement, là, on passe complètement du régime grec au régime romain. Avec Jésus-Christ, ça y est, c'est fait, le régime grec, on n'en parle plus. Ce qui reste, c'est Alexandrie, qui est une ville merveilleuse, parce que les Ptolémées, pendant 300 ans, ont construit un phare énorme, le phare Alexandrie, sur l'île de Pharos. On dit que le mot phare viendrait de l'île de Pharos. Et puis, des bâtiments énormes, un Césaréum, une bibliothèque, bien sûr, la bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait 700 000 rouleaux, 700 000, là, il n'y en a que 4500, 700 000 documents, et puis, un muséum, des monuments, un sérapéum, un temple à la gloire du... Bref, une cité sacrée, en quelque sorte, avec des monuments, des temples païens, bien sûr, mais aussi dévoués, aux grandes divinités chrétiennes, Isis, Mithra, enfin, d'autres des divinités de tout le bassin méditerranéen. Et là, donc, pendant cette mainmise grecque, les Ptolémées, ont en quelque sorte infusé l'esprit et le panthéon grec, mais en faisant leur part aux divinités et au panthéon égyptien. Donc il y a dans cette Alexandrie tout un mélange de civilisations, et ça va encore beaucoup plus devenir plus virulent avec les Romains, parce que les Romains ne sont pas plus tendres que les Grecs, et ils vont continuer à s'assassiner les uns les autres. César est assassiné en l'an 44. Antoine va aussi se suicider, bref. Mais les Romains, avec leurs légions, sont quand même très puissantes et vont faire face à tous ceux qui viennent les embêter, les Perses, les Babyloniens, enfin les Huns qui sont tout le temps en train de se bagarrer. Alexandrie, c'est le fait de cette... on est au nord, au sud du bassin méditerranéen, mais à l'estuaire du Nil, au-dessus du Caire. Et donc, cette ville merveilleuse que viennent confluer tous les commerces, mais aussi toutes les idées, mais aussi tous les guerriers, les règlements de toutes sortes. Bref, alors il y a la licence la plus parfaite, c'est-à-dire la débauche, les orgies, pour ceux qui peuvent se les offrir, les chefs, bien sûr, les puissants. Et puis, il y a aussi des choses extrêmement sacrées, extrêmement belles. Il y a bien sûr des sacrifices. Il y a des mystères grecs, des mystères égyptiens, Memphis, Thèbes, qui viennent en quelque sorte honorer la ville d'Alexandrie. Et donc il y a des mystères qui sont consacrés en Dieu, et il y a des initiations. Donc des gens extrêmement... On a un écartèlement entre le pire et le meilleur à Alexandrie, avec toutes ces nuées de population qui viennent s'entre-détruire, ou presque. Alors avec les Romains arrivent bien sûr les Juifs, après l'an 0, après Jésus-Christ. Les Juifs, puisque maintenant c'est plus les Grecs, que les Juifs craignaient beaucoup. Maintenant, c'est les Romains, beaucoup mieux, pas bien meilleurs. Les Juifs arrivent à Alexandrie, et puis, pas seulement les Juifs, mais aussi les premiers chrétiens. Et là, donc, c'est l'hécatombe des chrétiens, parce que les Romains ne supportent pas ni les Juifs ni les chrétiens. Et les Romains vont lancer les persécutions. Il va y avoir de très nombreux martyrs, jusqu'en l'an 290, par là. Très nombreux martyrs, et qui tomberont dans les jeux de cirque. enfin, des lions affamés, bref, et jusqu'à là, tous les saints du calendrier, c'est un peu peut-être cette évocation-là, jusqu'à Sainte Catherine, la dernière, martyre chrétienne, Sainte Catherine. Ces martyrs faisaient des sortes de miracles. Sainte Catherine, enfin, la légende dit que, l'histoire dit qu'elle a fait voler en éclats la roue du supplice qui lui était destinée. Bon, elle a finalement été décapitée à la hache, mais bon, alors Catherine a laissé son souvenir, puisqu'il y a un couvent Sainte Catherine dans le Sinaï. C'est la dernière martyre chrétienne, semble-t-il. Alors, là, on est en 290-300, et à Alexandrie, il y a eu, on a dit, le meilleur, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître Ammonius Saccas. Ammonius Saccas, c'est un type merveilleux, extrêmement pur, extrêmement mystique, et qui voulait concilier les religions, mais pas les concilier au niveau formel, en faisant un écuménisme avec tout un bataclan de formalités, de formalisme mélangé, de rituels fluides et informels. Non, il voulait concilier les religions dans leur esprit, dans leur spiritualité, dans leur... Donc Ammonius Saccas voulait... Il voulait que cessent tous ces combats fratricides, toutes ces violences épouvantables qu'il y avait en perpétuité à Alexandrie et dans tout ce bassin méditerranéen, donc c'était un monsieur très bien. Donc Ammonius Saccas fonde son école en 193-200, donc il la fonde à Alexandrie. Donc il y avait une école à Alexandrie. Alors, rappelez les néoplatoniciens, puisque Plotin est venu après. Plotin vient après, au IIIe siècle. Et donc, Plotin, lui, vient confirmer cette école philosophique dans le Serapeum, le muséum, la bibliothèque d'Alexandrie. Il vient donner des cours. Plotin était aussi un type extrêmement pur. Il était allé en Asie, bien sûr, et il était égyptien, semble-t-il. Il est en Asie avec Gordien, et puis il est revenu, il a dû voir les mages. On parle dans les livres de Gymnosophe, de contact avec les brahmanes. Donc voilà, il y avait des contacts jusqu'en Inde, pas seulement avec César, donc jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Là, on est après Jésus-Christ. Donc, Plotin, lui, a voulu aussi, comme Ammonius Saccas, concilier. Et lui, alors, en tant que métaphysicien, mais mieux, on pourrait presque dire méta-métaphysicien, parce qu'il a voulu monter plus haut que plus haut, dans vraiment la métaphysique, plus haut que Platon et Aristote. Et donc, il a repris Platon, mais Plotin a donc consolidé, en quelque sorte, l'édifice platonicien, et sa théorie des hypostases. On ne va pas s'appuyer là-dessus, c'est assez complexe. On retrouve ce qu'on dit en théosophie avec les logos, hein, les trois logos. Pour ceux qui sont habitués aux textes fondamentaux, on a trois logos. Bref, on est dans la métaphysique, c'est tellement élevé qu'on a du mal à comprendre. Bon, donc Plotin, lui, est un conciliateur. Il veut faire cesser les questions. Effectivement, il reprend ce que dit Platon. Et il reprend ce que dit Aristote, et il dit que bien tous les deux ont des très bons éléments d'approche de la vraie philosophie. Il veut la vérité, et pourquoi les opposer? C'est Platon et Aristote, il y a des choses merveilleuses dans l'un et dans l'autre. Dans Platon, il y a bien sûr cet intelligible qui est au sommet, cette transcendance qui est au sommet, et le sensible qui est en dessous, c'est le corps, c'est le soma, le corps est un tombeau, Platon. Donc, dans ses dialogues où il fait parler Socrate, c'est bien, il nous enseigne des choses merveilleuses, les noumènes qui donnent naissance aux phénomènes, le monde des idées qui donne naissance au monde des actions, au monde de la nature, c'est la transcendance. Bon, et donc, Plotin reprend tout ça dans ses Énéades. Et puis il montre qu'il y a donc des éléments extrêmement vertueux dans ce platonisme, mais aussi dans l'aristotélisme. Aristote, c'était l'élève de Platon, c'est une génération après, et Aristote n'a ni plus raison ni moins raison que Platon. C'est aussi très beau, il est plutôt empiriste, réaliste, et il part de l'observation. Il parle de la nature, c'est plutôt l'immanence par rapport à la transcendance. l'immanence dans laquelle la nature se révèle sorte, et il faut observer la nature pour pouvoir peut-être élaborer des modèles, élaborer par induction et non plus par déduction, passer donc du particulier à l'universel, donc avec, on peut ainsi remonter jusqu'à la cause première. Alors la cause première, on sait, Aristote était un logicien, et donc chez lui, il parle beaucoup de cause, cause première, cause finale, cause efficiente, cause matérielle, bref. Il y a toute une logique chez Aristote qui est passionnante, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc Aristote avait des éléments extraordinaires de philosophie, et c'est ça que cherchait Plotin. Donc c'est tout à fait intéressant, et Aristote, lui, quand même, il parle d'une cause sans cause, alors inconcevable, mais omniprésente, une cause sans cause. Et par conséquent, eh bien, c'est le premier primum mobile, comme on dit, le premier moteur, mais il est immobile, à partir de la cause première. Et Aristote dit que c'est en réfléchissant par induction qu'on peut arriver à cette cause première et qu'on va pouvoir monter vers cette cause première. Transcendance chez Platon, immanence chez Aristote, les deux sont tout à fait intéressants. La philosophie dit qu'il faut effectivement raisonner du général au particulier, du particulier au général, les deux, il faut les deux mouvements pour pouvoir comprendre comment ça marche le monde et comprendre comment on peut raisonnablement philosopher. Donc voilà, et puis alors Platon lui ajoute une troisième dimension qui est celle de la mystique, parce que bien sûr comme Aristote, quelque part mystique, mais pas complètement, pas au niveau de ces prêtres égyptiens, de ces adeptes qui venaient se faire initier dans les cryptes, ces aires sacrées, les mystères majeurs et les mystères mineurs, surtout les mystères majeurs, bien sûr, il y avait là des initiations extrêmement secrètes. Celui qui révélait quoi que ce soit était condamné à mort, mort de l'âme, bien sûr. Et donc on ne sait pas grand chose sur ces mystères, mais ils ont perduré pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que les chrétiens interdisent l'académie en 529 à Athènes, et jusqu'à ce que l'école d'Alexandrie soit fermée en l'an 600 et quelques. Donc tout ça, c'était extrêmement mystique, extrêmement spirituel, avec un dépouillement, avec un ascétisme, avec une discipline terrible qui faisait que ces gens, Plotin, étaient comme Amanus, révérés, vénérés, honorés comme un dieu. Voilà. Et ces gens étaient capables de faire des miracles, en quelque sorte, ce qu'on appelle des miracles, il n'y a pas de miracle pour la théosophie, mais ces gens savaient manier les forces de la nature à toute efficience voulue, quand il le fallait, quand il le voulait. Alors, Plotin, par exemple, atteignait l'extase, c'est-à-dire atteignait la réunion. Il réunissait son âme avec Dieu, enfin avec le divin. Et Plotin a connu plusieurs extases dans sa vie. Et ses disciples ont cherché Porphyre, notamment, qui a écrit les Énéades. C'est Porphyre qui les a écrites, Saint qui les a énoncées, mais c'est Porphyre qui les a écrites. Eh bien, son disciple a cherché aussi à faire comme son maître. Il a pu avoir une extase. Bon, c'était vraiment le summum qui pouvait être désiré par ses adeptes de la vérité absolue. Là, on est dans la... Donc, Plotin a cette dimension sacrée, secrète à la vraie philosophie. Avec ces trois philosophes, on a quelque chose de très complet. Platon, Aristote, Plotin. On a le rationnel parfait, enfin, le spirituel parfait, l'intelligence du monde complète. Et puis, on a la recherche spirituelle vraiment individuelle et profonde, la plus pure, la plus détachée, la plus consacrée qui soit. Donc on a là des éléments, une totalité dans la recherche de la vérité grâce à Plotin et aux écoles. Alors maintenant, Plotin donc a fondé son école, il l'a fondée à Rome, école qu'on a appelée, école, et ensuite elle a été appelée néoplatonicienne, bien sûr. Mais Amanius Saccas aussi, c'était une école donc puisque Platon avait vécu 6 siècles auparavant. Donc là, on est au 2e siècle, et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Romains n'arrivent plus à contenir les foules à Alexandrie. Les Romains ont fort à faire, ils ont les légions qui n'étaient pas tendres. Romaines, c'était très dangereux de se affronter des légions romaines. Mais enfin, les Juifs commençaient à s'installer carrément à Alexandrie, et puis donc les chrétiens aussi. Alors les chrétiens, eh bien, ils avaient été, on l'a dit tout à l'heure, persécutés, mais à force de martyrisation, on avait évolué finalement, et les Romains étaient presque submergés par ces chrétiens, et donc en 300 et quelques, et Constantin arrive et finit par se convertir. L'empereur Constantin, premier empereur, par rapport à Domitien, dernier empereur persécuteur, Constantin n'interdit plus le christianisme. Il y a la liberté de culte en 309, 310 ou 312 peut-être, et les cultes donc par Constantin. Et puis il y a le concile de Nicée en 325. Nicée, on le sait, le credo de l'Église catholique, c'est le credo de Nicée. Hein, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Mystère. Vous vous rappelez ce credo? Il date de Nicée, 325 après Jésus-Christ. Donc tout ça, c'est les chrétiens qui commencent à submerger, et les empereurs romains se convertir, ça y est. Bon, il y a un bref intervalle avec l'empereur Julien entre 360 et 380, que l'Église a appelé Julien l'apostat, le traître, aux religions païennes, alors que tout était déjà christianisé. Et bien oui, il a en partie réussi pendant une vingtaine d'années, mais dès 383, à sa mort, bien sûr, l'Église a repris le pas et a obligé les empereurs jusqu'au bout. Donc, c'est dans cette... Dans ce maelstrom de courant et de lutte intestine, bien sûr, ce qu'il emportait, les chrétiens ont pris le dessus et ont commencé à détruire Alexandrie et à construire des églises avec les mêmes cailloux, les mêmes rochers. Ils ont construit des églises. Puis, alors le phare d'Alexandrie aussi a été en partie détruit. Et il y a eu des tremblements de terre ensuite au 6e et 7e siècle. Donc, finalement, avec l'islam. Tout a été finalement détruit et récupéré pour faire des forteresses, pour faire des châteaux forts, enfin des... Voilà. Donc il ne reste plus rien de cette époque d'Alexandrie. Le tombeau mausolée a disparu, on ne sait même plus. Le phare, il ne reste plus rien. Il y a un fort à la place, un fort musulman à la place, enfin qui a été musulman longtemps. Et puis voilà, le Césarium, le Tapis, la bibliothèque d'Alexandrie a été... ce qui en restait dans le muséum a été incendié. Donc, plus de traces. Et ces 700 000 rouleaux de l'Empire grec avaient déjà été en partie incendiés avec la guerre de César contre Antoine. Et ensuite, à nouveau, ça a été incendié par les chrétiens qui n'admettaient pas qu'on puisse faire autre chose que Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu unique. Alors, Hypatia là-dedans, eh bien, Hypatia, la pauvre, elle est née en 370, donc c'était déjà la mainmise des chrétiens qui étaient autorisés, et puis, mais les cultes païens étaient encore autorisés, comme le tien, et donc Hypatia naît en 370, et puis elle enseigne dans cette école d'Alexandrie, dans cette enceinte, là encore en partie, il y a quelques églises qui apparaissent, mais Hypatia enseigne, une totalité de disciplines, aussi bien l'astronomie, la philosophie bien sûr, d'Aristote, de Platon pour commencer, Socrate, Platon, d'Aristote aussi, de Plotin, mais aussi la philosophie, mais aussi les mathématiques, l'astronomie. Les sciences de la vie, comme on dit la SVT aujourd'hui. Elle enseigne tout ça, elle sait tout ça. Une science infuse de cette femme face au monde romain, au monde païen, au monde chrétien, elle enseigne ça avec beaucoup d'aisance. Et donc, eh bien, par exemple, alors, ce qu'il en reste, c'est pas grand-chose, il n'y a aucun écrit qui soit resté d'elle, mais elle a inventé, par exemple, l'hydromètre, des choses concrètes. Son souci de vérité était jusque donc l'hydromètre, c'est un appareil tout simple, mais aujourd'hui, mais qui mesurait la densité. Elle était la première inventeur de l'hydromètre pour calculer la densité des liquides. Elle a inventé un astrolabe pour mesurer la latitude d'un point géodésique. Astrolabe, elle a créé un astrolabe de toutes pièces. Elle a aussi, par ses recherches mathématiques, son père était mathématicien, Théon. Mais elle a, en mathématiques, cherché pourquoi la Lune ne circulait pas en sourd de la Terre. Pourquoi la Lune ne circulait pas en cercle. Et ses calculs lui ont montré que la Lune circulait en ellipse autour de la Terre. À l'époque, c'était contraire à la perfection du ciel qui voulait que tout tourne en cercle. Alors bien sûr, il y avait un certain Ptolémée, un grec, qui au IIe siècle qui avait inventé des petits cercles dans des grands cercles. On a longtemps, dans la scolastique, jusqu'au Moyen-Âge, étudié ces épicycles, des petits cercles dans les grands cercles qui permettaient de comprendre pourquoi les astres avaient rétrograde. Ils tournaient et un mouvement rétrograde, puis ils continuaient, puis un mouvement rétrograde. Pourquoi ? Parce que c'était le petit cercle qui tournait. Bon. On en est revenu à cette astronomie de Ptolémée. On a compris que les planètes ne tournaient pas forcément autour de la Terre, mais autour du Soleil. Ça, c'est un peu c'est notre Hypatia qui avait commencé à découvrir cela avec le parcours de la Lune. Très probablement, elle avait émis des idées sur l'héliocentrisme et non plus sur le géocentrisme. Le géocentrisme, c'est la sphère qui est autour. Ptolémée avait affirmé ça avec ses histoires d'épicycle. L'héliocentrisme, Pythagore en avait évoqué l'idée. Et puis, très probablement, les initiés savaient que tout tournait autour du Soleil et pas autour de la Terre. Mais ça, c'était secret, c'était sacré, c'était donné dans les initiations, très probablement. Alors Hypatia, eh bien face à cette montée des juifs et chrétiens, pas de problème, elle enseignait, elle continuait à enseigner, non mariée, pour pouvoir enseigner il ne fallait pas être mariée, autrement elle n'aurait plus droit à la parole, et donc elle enseignait, et puis est arrivé ce qui devait arriver, les chrétiens jaloux de son autorité, de sa science, de sa puissance, connaissance philosophique, mathématique, arithmétique, géométrique, enfin tout ça, ont été jaloux et longs. Et l'ont arrêté, l'ont massacré, dans une église, en plus. Là, on est loin de « aimez-vous les uns les autres » de Jésus. C'est vraiment le retour à la sauvagerie barbare. Et Hypatia a été massacrée pour avoir été fidèle à la recherche philosophique et aux vrais philosophes, enfin, voilà. Et elle a été massacrée pour avoir voulu défendre la validité des grands philosophes de son temps, d'avant, et donc elle a été écorchée, massacrée et brûlée. Voilà. Alors après ça, donc, eh bien oui, les restes de cette ville d'Alexandrie ont été détruits peu à peu, et puis on est en 415 après Jésus-Christ. L'école d'Alexandrie a quand même continué un certain temps, jusqu'en 529, mais tout s'est réduit peu à peu avec l'emprise des chrétiens qui, par la force, ont même obligé les Romains à se convertir, jusqu'à ce qu'en 600 et 640, les musulmans viennent tout balancer. Et donc nommer la place en 641. Et à partir de là, à nouveau destruction, reconversion. Voilà, tout ça c'est très violent, très cruel, très très triste, mais en même temps très pur et très beau, parce que dans ces mystères sacrés, dans ces cultes aux dieux païens, il y avait une pureté, il y avait une recherche de mystique extrêmement profonde, et alors qu'aujourd'hui, quand on veut chercher où il y a encore du mysticisme et de la recherche de vérité profonde dans nos sociétés, on a du mal à trouver. Non, ce qui est intéressant. Alors, tout ceci pour dire qu'il y a un parallèle étroit à faire entre Hypatia et Madame Blavatsky. Plusieurs parallèles. Toutes les deux, Hypatia et Madame Blavatsky, ont été des personnes d'une intrépidité et d'un courage farouche. Une intrépidité. Femmes, toutes les deux, face à un monde violent. Hypatia voyait les règlements de compte affreux, les assassinats qu'il y avait à Alexandrie, et elle est restée face à ces conflits fidèle à son enseignement et à vouloir redispenser ces éléments de vraie philosophie. Donc un très grand courage, alors qu'elle sentait bien que les chrétiens la jalousaient. Il y avait dans son école, il y avait les plus grands philosophes. Le préfet de Rome, Oreste, était venu assister à ses cours. Il y avait bien sûr des évêques, des patriarches chrétiens qui venaient pour apprendre quelque chose à dire à leurs ouailles, parce qu'elles savaient tout, cette sacrée. Et puis il y avait aussi des juifs, des rabbins, il y avait toutes sortes de savants et de prêtres qui venaient assister, apprendre dans ces cours. Donc Hypatia avait une telle autorité qu'elle enseignait face à... Et donc il fallait un courage pour une femme. Madame Blavatsky, c'est pareil. Quand elle a dû affronter en 1875 la science elle-même, la science avec ses dogmes matérialistes, elle a eu fort à faire. Parce que, il y avait quand même, avec le 19e siècle, il y avait une puissance de conviction des matérialistes qui était très forte. Elle a affronté ces matérialistes, elle a, sans crainte et sans remords, affronté surtout l'Église catholique. Elle a affronté l'Église, elle a dû être mise en index, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais... face aux missionnaires chrétiens qui venaient convertir de force tous les petits indiens, comme on l'a vu, face au pape avec son infaillibilité, face à tout ce corpus de clergés extrêmement puissants qui condamnaient, qui vouaient à l'enfer, c'est extrêmement effrayant de voir une femme affronter l'Église catholique et ses dogmes. Du reste, si les chrétiens avaient si bien réussi, au deuxième siècle, premier et deuxième siècle après Jésus-Christ et Alexandrie, c'est parce que justement les prêtres avaient donné les bons éléments de la religion chrétienne, c'est-à-dire bons éléments, éléments rassurants. Voilà, vous allez aller au paradis, vous allez être assis à la droite de Dieu, vous allez, ayez la foi, croyez mes bons enfants, et vous allez pouvoir venir au paradis. Voilà, ça avait marché, mais ça c'était l'amour fraternel pour ces calabanis, ces pauvres petits peuples et ces pauvres moines du désert qui étaient pour certains des ascètes, mais d'autres des gens qui mouraient de faim et qui étaient condamnés aux galères éventuellement. Donc ça avait fait le succès de la religion chrétienne, mais maintenant au 19e siècle, Madame Blavatsky, vous voyez, c'est ce clergé, cette institution majestueuse et absolument archaïque, en quelque sorte. Avec ces catéchismes qu'il fallait croire, et avec avec un dieu anthropomorphe, un bon dieu en plus, avec un diable, l'enfer éternel. Voilà. Donc tout ça, il fallait affronter ça, et Madame Blavatsky a affronté ce catholicisme complètement archaïque au niveau du raisonnement logique. Et puis Madame Blavatsky a affronté aussi courageux problème, le spiritisme, qui au XIXe siècle faisait croire que les esprits des morts revenaient. Les esprits des morts revenaient pour parler, pour donner des nouvelles de leur état là-haut après la mort, ça se passait bien, voilà. Et Madame Blavatsky a bien affirmé, affronté ces spirites, elle s'est bien sûr fait calomnier dans tous les sens, pour avoir dit aux spirites qu'ils se trompaient, que ce n'était pas l'esprit, c'était leur déchet en quelque sorte, personnel, qui était là, et que le médium réussissait à revitaliser pendant un temps pour faire croire que c'était l'esprit. Mais ce n'était pas du tout ça, c'était des déchets trop qui venaient se manifester par la force d'un médium. Donc Madame Blavatsky a redonné la vérité par rapport à ces spirites. Donc elle a affronté, c'était le courage et la stupidité de ces deux femmes. qualité de ces deux femmes, c'est le souci de la vérité. La vérité. Ça, c'est très important. Rappelez-vous que les néoplatoniciens s'appellent les philalètes. Philalètes, ça veut dire amoureux de la vérité. Là, c'est philos, philaïne, c'est aimé, et puis aléithéia, c'est la vérité. Les amoureux de la vérité. La recherche de la vérité. Et qu'est-ce que dit la théosophie? Il n'y a pas de religion au-dessus de la vérité. Dans les deux cas, on a cette recherche farouche de la vérité. De la vérité philosophique, vérité partout. Alors, cette recherche, bien Hypatia, on le voit dans les quelques souvenirs qui nous ont été laissés, qui nous sont transmis, et puis, on le sait par ailleurs, elle faisait des recherches approfondies en n'admettant rien pour acquis. En chercher l'acquis de la circularité parfaite des astres, non, elle l'a remise en cause en montrant que la Lune ne circulait pas dans un rond, que c'était une ellipse, c'est tout à fait différent. Donc, tous les éléments déjà en place, voilà, c'est ce qu'a fait Madame Lavatsky également. Donc, le souci de la vérité absolue. Alors, pour la théosophie, comme pour Hypatia, on le pense, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des vérités relatées absolues, on ne peut pas l'atteindre. Pourquoi? Ben, la vérité, c'est quoi? C'est quelque chose qui formule la réalité. Tout ce qui existe et tout ce qui est en profondeur derrière ce qui existe. Voilà, ça c'est la réalité. Les mots font partie de cette réalité. Les mots sont inventés par les hommes, donc les mots sont dans cette réalité. Comment ces mots qui sont dans la réalité pourraient-ils décrire ce qu'ils étaient? On comprend bien qu'ils devraient sortir de cette réalité pour dire voilà ce que c'est. Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire la réalité, il n'y a donc pas de vérité absolue. Par contre, il y a des vérités relatives, et c'est ce que cherchait Hypatia, c'est ce qu'a cherché Manaki dans tous les domaines, bien sûr. Pour la théosophie, c'est essentiellement la vérité, les vérités essentielles, philosophiques, et non pas toutes les vérités de toutes les sciences, comme l'a fait Hypatia. Donc, souci de la vérité absolue, et c'est ce que nous faisons ici. En redonnant les écrits de Madame Blavatsky, nous essayons de redonner ce souci de vérité dans tous les domaines. Et avec la division septuple, nous avons une psychologie possible, possibilité d'approfondissement de toutes les, y compris de la psychologie, qui n'existe nulle part ailleurs. Peut-être dans les écoles bouddhistes ou hindouistes, dans les monastères, mais avec des termes qu'on est loin de pouvoir comprendre. Donc, en anglais et en français, on a maintenant des éléments d'approche de la vérité constitutive de l'homme et de l'univers qui sont universels et qui sont introuvables ailleurs. Souci de la vérité. Hypatia, Madame Lavatsky. Autre élément de parallèle qui est tout à fait fécond, c'est la fraternité. La fraternité, eh bien, Hypatia recevait tout le monde à son école. Les Juifs, les Grecs, les Chrétiens, les Égyptiens, les Perses, les Satrapes Perses, oui, les grands chefs Perses, les Satrapes, venaient à son école et tout le monde venait, les prêtres venaient pour apprendre, pour comprendre et pour discuter entre eux. Elle admettait. Souci de la fraternité, c'était donc. Elle parlait simplement, elle était vêtue, paraît-il, simplement, sobrement, et elle ne cherchait pas à s'imposer, voilà. Fraternité. Qu'est-ce que dit la théosophie? C'est la fraternité universelle, c'est le premier but de la société théosophique, le troisième but, je ne sais plus, enfin c'est un des trois buts de la société théosophique, la fraternité universelle. C'est fondamental, parce que s'il n'y a pas de fraternité, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'égalité entre tous les hommes, bien sûr. Juifs, grecs, noirs, blancs, c'est aussi la dignité. La dignité humaine qui est vraiment mystérieuse, mais qui est merveilleuse. C'est l'humanisme avec un H majuscule. La dignité de l'homme, qui bien sûr interdit tout mal qu'on pourrait lui faire à cet homme, à ce voisin, à ce frère. Donc fraternité, bien sûr, égalité, dignité, et puis sacralité de la vie. La vie, c'est sacré. La vie, c'est sacré, donc bien évidemment, la fraternité entraîne le respect de la vie de l'autre comme étant quelque chose de sacré. Donc, interdiction de tuer, de faire du mal, c'est une évidence. Mais vous voyez, et c'était les mêmes soucis qu'il y avait chez Hypatia et chez Madame Blavatsky, qui a érigé cette foi en principe absolu à respecter. Voilà. Quatrième élément de comparaison et important, intrépidité, courage, souci de la vérité, fraternité, et puis on va dire l'exemple. L'exemple qu'elles ont donné, ces deux femmes, l'exemple. L'exemple, des exemples merveilleux, parce que toutes les deux ont été des exemples de maîtrise de leurs sentiments, de maîtrise de leur personnalité, de maîtrise de leur origine, de maîtrise et finalement, on va dire, dévotion, de dévotion complète à leur travail de consécration. Voilà. De dévotion et de consécration. Madame Blavatsky a vécu les 10 ou 20 de sa vie à écrire 16 heures par jour, 18 heures par jour. C'est-à-dire qu'elle a bien sûr fait fi de sa santé, pour pouvoir écrire ce qui donnait à écrire, parce qu'il s'agissait de donner au monde moderne des éléments de vérité, des éléments de philosophie, de fraternité. Et donc, Madame Blavatsky s'est consacrée à son œuvre. L'exemple qu'elle a donné est merveilleux. Tous ses contemporains, l'ont vécu et on a des livres sur son histoire. Hypatia, c'était pareil. Elle s'est consacrée entièrement à son œuvre, consacrée donc à sa recherche, à son école, à la recherche de la vérité, à la recherche des principes qui gouvernent ce monde. Donc ces deux femmes comptent en quelque sorte avec l'exemple. Il y a eu pour Hypatia, on le sait, des romans et des histoires, et des romans et des films. Il y a eu un film sur Hypatia qui a été fait. Donc des souvenirs immémoriaux, des souvenirs qui amènent à la vénération vraiment de cette Hypatia. Donc la théosophie avec Madame Blavatsky, on a vraiment là, et c'est curieux, à 1500 ans, on a eu presque une réincarnation, on pourrait dire, d'Hypatia. Bon, là, c'est une fantaisie. Parce que très certainement, à ce niveau-là, les personnes ne réincarnent pas avec des intervalles aussi longs. Mais l'important, c'est le parallèle au niveau des principes et au niveau des exemples et au niveau des vertus cultivées par âme face à un monde affreusement machiste, cruel et violent de l'époque d'Hypatia, et face à un monde pessimiste, négatif, relativiste, égoïste, comme on l'a maintenant. Donc on voit que là on a avec ces deux exemples des modèles extraordinaires pour nous aider à comprendre comment ça marche, comment on peut raisonner avec Aristote et Plotin, et comment on peut axer, diriger, orienter sa vie avec ces exemples dans le sens du beau, du bien, du vrai, et de l'utilité, de la meilleure utilité pour le service des autres. Voilà quelques mots. Maintenant, on a des questions et c'est ça. Alors, on prend dans un quart d'heure, on prend par écrit vos questions, si vous voulez bien, sur le sujet Hypatia et l'école d'Alexandrie. Et puis après, il sera répondu pendant une heure par un panel à vos questions, 7h30. Donc, pendant un quart d'heure, on prend vos questions.